Pellegrino, mange la marde. M'a te dit en espagnol, mange un colis de champ de marde, champ de marde.
Version Celtic Frost, Testament, Savatage, Morgoth, Merit, Danzig, Wasp, Morbid Angel et plus.
Sylvain Latour ici à la barre de Subversion, édition du 25 décembre 2015, émission spéciale du temps des fêtes, puisque ce sera ni plus ni moins qu'un Metal for Breakfast avec notre ami Michel Monette, alias Mike de Metal Guy, que nous avons rencontré dimanche dernier dans un restaurant de Terrebonne, pour discuter et analyser 44 albums à déconseiller pour Noël. Bref, des albums condamnés, condamnables ou incompris de discographies respectives. Alors, pour en discuter, commandez-vous un café de The Bacon et joignez-vous à notre table.
Et voici maintenant la chronique de Michel Monette.
De Metal Guy.
Nous sommes en direct du Ben et Florentine dans le comté de Terrebonne pour ce spécial, on pourrait dire Metal for Breakfast, avec notre ami Mike TMG. Ça va, Mike?
Oui, ça va très bien. C'est le maître aussi. T'as bien déjeuné?
Oui, c'était très bon. En fait, c'est un concept que c'est un peu toi qui as eu l'idée à l'origine de faire ça. Les albums qu'on pourrait qualifier de des condamnés, les albums qui ont... On peut considérer les albums weird dans les discographies de, respectives des bands, les Game Changers ou les albums de marde. Donc, toi, tu as érigé personnellement un top 44 des albums de marde.
Effectivement, j'ai passé au travers de ma discographie complète et chaque artiste, ou pas chaque artiste, mais plusieurs artistes bien connus ou moins bien connus ont souvent un album, j'appelle, comme tu as dit, Game Changer. Donc, ils sont hors de la tangente habituelle. Il y a toujours une évolution musicale, mais à un moment donné, quand tu fais quelque chose qui est 90 degrés, fait que là, on va en parler d'un peu, comme par exemple Cold Lake de Celtic Frost, ou Celtic Frost pour les intimes, ou Black Acid Devil de Danzig, un album qui est totalement différent de la norme. Bien, c'est ça qu'on a aujourd'hui pour vous à l'émission.
Ouais. C'est ça qu'il y a des albums qui c'est... moi, je pensais qu'on perçoit comme des virages à 90 degrés. Il y en a d'autres qui c'est à 45. Il y en a qu'on a mal compris dans le temps, mais qu'avec du recul, après une couple de décennies plus tard, on a fini par accepter ou par comprendre. C'est surtout une question de compréhension, de perception.
Ou bien haïr encore plus, parce qu'avec le recul, on réécoute ça aujourd'hui, puis ça a mal vieilli finalement, ou ça vieillira jamais.
Cold Lake est apparu le 1er septembre 1988. C'est un album que j'ai condamné, comme je disais, avant même d'avoir entendu. J'étais consterné seulement à la lecture des reviews à Metal Forces à l'époque. Juste de lire les titres des tunes sur le back cover, c'était assez pour me bannir. Tu sais, Little Velvet, Dance Lazy, Blood on Kisses, tu sais, typiquement Poison, vous me direz. Ça, c'est sans parler du code vestimentaire clairement transgressé depuis le départ de Martin Ayne. C'est seulement en écoutant la compilation Fresh Winters to My Undying que je me suis aperçu qu'il y avait quand même des bonnes compositions comme Downtown Hanoi et que j'étais capable de tolérer Cherry Orchards, comme on disait. Surprenamment, quel refrain ordinaire. Même si on était rendu dans la cour des Wasps et des Motley Crue. Je pense que si Tom n'avait pas chanté sur l'album, probablement la seule touche d'originalité qui leur restait à ce moment-là, on serait même pas en train d'essayer de trouver des excuses pour y avoir prêté attention. Dans la façon que l'album commence, ça commence bien mal. « Seduce Me Tonight », c'est assez pour arrêter ça de là et d'arracher le tape du tape deck. Apparemment, le matériel de l'album était surtout basé sur les compilations de Lever. L'histoire veut que Thomas Gabriel ait perdu le contrôle de la direction artistique et qu'une des erreurs qu'il ait fait serait d'avoir persisté à garder le producteur en question, seulement pour se voir associé à un nom major. Je pense qu'ils ont réalisé l'impossible d'une certaine façon, de matérialiser une version glam de Celtic Frost, chose tout à fait impensable dans les années précédentes. Après ça, c'était une citation de Tom qui semblait avoir regretté un peu cette étape-là, qualifiant de « absolute worst I could do in my lifetime ». Penses-tu vraiment que c'était vraiment le pire du pire de Celtic Frost?
C'est sûr que c'est le pire du pire de Celtic Frost quand on parle musicalement parlant. Mais il faut pas oublier, hein, ça c'est en 88. Puis en 88, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre entre le thrash et le hard rock. Donc, côté marketing et côté sous pour Norse Records, leur compagnie, ils voulaient faire un essai. Ils ont fait un essai. C'est pour ça que le produit a passé au niveau des têtes dirigeantes chez Noise. Sinon, ils auraient refusé l'album littéralement. Mais l'album a été poussé quand même. Il y a même une vidéo pour Cherry Orchards qui existe, qui a passé à MTV et autres. Donc, eux, ils essayaient de se rapprocher d'une clientèle pop ou hard rock, ou une clientèle féminine aussi. Bon, oui, ça fait un échec à cause que Celtic Frost sont les inventeurs du speed metal et du death metal et du trash metal quasiment. Fait que c'est sûr que ça fait difficile pour les vrais fans de comprendre le 90 degrés ou 180 degrés qui a été fait quand on regarde Morbid Tales jusqu'à 5 ans plus tard, Cold Lake, avec les titres que tu viens de nommer. Fait que c'est sûr que pour les fans, c'est impossible à avaler. Un nouveau fan aurait pas compris ça, puis aurait vu l'album très différemment, comme un autre album hard rock du temps de la saveur des groupes que tu as nommés aussi. Fait que c'est ça la différence. Fait qu'il y a deux perceptions de cet album-là. La perception des fans de Celtic Frost et la perception des non-fans de Celtic Frost. Mais c'est sûr que dans l'histoire du rock'n'roll, c'est le groupe qui a fait le plus gros 180 degrés ever, je pense. C'est pour ça qu'on l'utilise encore aussi comme terminologie aujourd'hui. Ouais, tel album. Ah, ça, c'est leur Cold Lake à eux autres.
Ouais, c'est ça. Exactement.
C'est un peu dommage, mais Tom Warrior va devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours.
Ça, c'est vrai. Ça doit pas être évident. Mais ça me fait penser. Je me souviens pas parce que j'étais pas abonné au magazine Metal Forces, mais je suis en train de me dire c'est parce que les autres avaient leur chroniqueur attitré pour ces différents styles de métal. Je sais pas si c'est Dave Constable ou Mike Exley qui avait reviewé Into the Pandemonium pour le 0 sur 100, mais il me semble qu'à ma connaissance, Cold Lake avait une meilleure cote, mais probablement à cause que le journaliste qui le critiquait, c'était un genre de Kelv Hellraiser, que lui, c'était le gars qui faisait le glam dans Metal Forces, qui était le spécialiste du glam. Alors lui, peut-être qu'il l'a perçu comme un album. Il a pas considéré...
Un band trash qui fait un album glam, bien sûr. Ouais, un band glam qui fait un album glam.
Et pour considérer les précédents de Celtic pour se donner une base pour sa revue, parce que ben, je ne sais pas sans savoir si c'était lui qui l'avait vraiment fait, mais en tout cas, c'est comme tu dis, c'était une espèce de blueprint pour les albums de marde modernes.
définitivement.
Ouais.
Mais musicalement, c'est un album glam, comme tous les albums glam de 88. C'est plus élevé pour du glam, mais c'est trop glam pour du trash. Donc, on est entre deux chaises. Là. C'est une zone qui était, comment dire en anglais, c'est du uncharted territory. Ça, c'est jamais fait dans ce temps-là. Et espérément, on espère que ça ne se fera plus jamais non plus. Mais ça, c'est dit, ça donne des bonnes conversations. We'll be right back.
subversion sur Underground Québec Radio.
Bon, un autre album que, en fait, que Mike a eu l'idée d'apporter, c'est pas nécessairement un virage 90 degrés, peut-être un 75 ou un 60, mais c'est quand même un album, en tout cas, c'est une direction un peu confuse, voire énigmatique pour ce band qui est un des pionniers du Swedish death metal. On parle de N2. L'album, c'est Same Difference de 99, mais pour retracer un petit peu ce qu'ils ont fait avant, l'espèce de timeline de direction artistique, Mike a suivi le band un peu plus près que moi, son part, mettons, de ce qu'ils ont fait à partir de Wolverine Blues, 93, c'est ça? Hein?
Oui. Bien sûr, Entombed ont leurs deux premiers albums death metal, donc c'est-à-dire Left Hand Path et ensuite Clandestine, deux classiques du death metal. Ensuite, est arrivé Wolverine Blues en 93. Il faut se remettre en contexte, en 93, il y avait le grunge, il y avait la musique alternative, il y avait le thrash qui était dans ses derniers balbutiements. Et en 93, Sony Music, via Columbia Records aux États-Unis, ont signé Entombed directement. Donc, pour un band death metal d'être sur un major, il faut faire certains compromis. Et ce compromis-là s'appelle Wolverine Blues, qui est très heavy, mais qui est aussi plus léger que les deux prédécesseurs. Là où est-ce que ça devient plus complexe, c'est quand ça a pas marché, puis ça a floppé, puis ils sont fait dropper par le major, puis ensuite ils se retrouvent sans label. Fait qu'en 99, on retrouve l'album Same Difference, sorti sur Music Foundation aux États-Unis, en Europe, et c'est ça, sans aucune distribution américaine. Fait qu'ils ont essayé de percer le marché américain quand même avec un produit plus léger, l'album Same Difference, qui est vraiment du alternatif death metal, là. Ils avaient inventé le death and roll, mais là, on enlève le death dans le death and roll, puis c'est juste du trash and roll ou du alternative and roll.
Ouais.
Fait qu'on a Same Difference en 99, qui est pas mauvais, mais malheureusement, c'est il est marqué Entombed sur la pochette, là.
Ouais, c'est ça le problème. Mais ça, évidemment, moi, mes souvenirs d'Entombed, ça s'est arrêté après... To write, shoot straight and speak the truth.
C'est
plus, on va faire la lecture de ce qu'on s'est échangé l'autre soir à ce propos, quand ça m'a fait redécouvrir l'album, parce que là, j'étais vraiment...
À ton grand désespoir.
C'est incroyable, en tout cas, je pourrais en témoigner de ce texte. Ouf, oui, bon choix d'album de marde, I suppose. Le chien sur le cover me rappelle celui dans le vidéo de Tad. Callis, Entombed n'ont pas fait ça. J'ai dû entendre un extrait à l'époque et flusher ça presto. Damn, on dirait du Helmet, mais pas aussi bon que le meilleur d'Helmet.
Ouais, c'est vraiment la honte de Uffe Söderlund, le guitariste main man. Moi, j'aime le vrai Seattle Grunge, mais ce vinyle est juste pas bon. Cet album-là, c'est du heavy rock sans focus, joué par le groupe Stockholmois qui est en quête d'un marché américain hostile à ce temps-là.
Ouais, si le disque porterait le nom de Soundgarden de Seaweed, on pourrait pas appeler ça un désastre, mais là, il s'agit bien des pionniers du Swedish Death Metal.
Mais ouais, malheureusement, une horreur mi-90.
Damn, on dirait du Rage Against the Machine. L'album aurait dû s'appeler Right Horse Path.
Ouais, faire une petite blague à Left Hand Path, dit à l'envers.
En fait, ma conclusion de ça, c'est que le meilleur me faisait penser à Helmet ou Soundgarden, imaginez le pire. Qu'est-ce qui a pu se passer au sein du groupe? Artistiquement et intégralement, je détecte une grande confusion plutôt qu'une grande inspiration.
Le problème, c'est d'avoir, un peu comme Celtic Frost, c'est d'avoir persisté. Pourquoi ils persistent toujours de
garder le nom du band quand il y a un virage à 60, 80 ou 90 degrés?
Mais comme n'importe quel artiste, puis comme tous les autres artistes sur lesquels on va débattre tout à l'heure, l'artiste est en contrôle de sa musique. C'est lui qui crée et qui compose. Fait que c'est normal qu'ils ont le droit de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que fans, on a aussi le droit d'attaquer et de critiquer le produit parce que c'est nous autres qui consomment et qui payent avec des dollars. Fait que pour ce qui est de cet album-là et des autres albums à venir, c'est des hardballs. Ce sont pas mauvais, mais ça ne fit pas dans l'aspect linéaire qui est traditionnellement le rock'n'roll. Quand tu as une voix, tu la suis. Mais là, faire des tournants comme ça et des pirouettes, c'est ça qui fait diluer ton fanbase et qui rend ton produit, qui dilue ton produit overall.
Autre album que j'ai abandonné très vite parce que, peut-être à cause que j'avais trop apprécié les albums précédents, j'ai perçu tout de suite comme un album beaucoup plus fade. C'est un album que je me devais de réécouter avec beaucoup de recul, finalement. C'est Testament de Ritual, de 92. Moi, la production au départ, je la trouvais peu reluisante, en fait. C'est-tu le mastering, c'est-tu le son de guitare, semblait dès la première écoute, pas mal moins dynamique à l'oreille de ce qu'elle avait fait auparavant. Mais c'est peut-être aussi les compositions. On a peut-être voulu revenir à certaines racines plus hard rock, 70s, tu sais, Aerosmith, Kiss, Led Zepp, ici et là, peut-être qu'on entend plus les racines vraiment de les influences du band, c'est bien probable. Peut-être qu'en 92, plusieurs d'entre nous étions à la recherche de plus de puissance. Fallait se rincer on se faisait rincer au quotidien avec Napalm Death, Carcass à ce moment-là, puis Brutal Truth aussi. C'est peut-être seulement un autre groupe qui a eu du mal à se renouveler à ce moment-là, comme ils ont réussi à le faire pourtant plus tard. Tu sais. La vidéo, la pochette, tout était beaucoup plus ordinaire à mon sens que précédemment. Je pense qu'on pourrait monter une liste impressionnante de groupes qui sont arrivés avec des pochettes les plus laides de leur discographie aux alentours de cette année-là. Le Big Four complet, Exodus, Overkill, bref. C'est The Ritual qui est une énigme pour moi. Pas si plaisant à redécouvrir finalement, mais au moins pas, c'est pas scandaleux comme ce que Metallica ou Megadeth ont déjà offert dans leur pire, à mon sens, évidemment. Toi, comment tu perçois The Ritual? Est-ce que tu as un album que tu écoutes encore? Ou...
Oui, c'est un album que j'écoute encore, moins souvent. Pour ce qui est de Ritual, qu'est-ce qui s'est passé avec cet album-là? C'est peut-être au niveau de la production, comme tu as mentionné. Ironiquement, la production a été gérée par M. Tony Platt, qui a aussi produit l'album Cold League de Celtic Frost. Ouais, ouais. Bon, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est justement à blâmer pour ce qui est de la composition. On s'entend que c'est toujours Eric Peterson, Chuck Billy et Alex Kalnick. Justement, en parlant d'Alex Kalnick, sa tête était déjà ailleurs entre ce point-là. Ouais. Donc, Testament, ils ne l'ont jamais avoué, mais ont toujours voulu se débarrasser de Skornik depuis ce temps-là, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et ensuite, on a eu l'album Low, l'album Ultra Heavy, deux ans plus tard, en 94, qui était une renaissance pour Testament. Puis ensuite, Demonic et The Gathering, etc. Donc, ça a redonné bref, il fallait qu'il y ait un point de croisement, un breakdown à l'intérieur du groupe. Et c'est ce qui traverse l'album de Ritual. L'album n'est pas mauvais. C'est un album trash, mais un album léger. Au niveau production, au niveau composition, les solos sont beaucoup moins focusés pour ce qui est de Alex Kalnick. Et les riffs métalliques sont aussi moins directs et moins punchés que ce qui était sur Souls of Black ou bien sûr Practice What You Preach, le légendaire album de 89. Et donc c'est le point faible de Testament. Début 90, il y avait beaucoup de pression. On était déjà inspiré par d'autres groupes. Il y avait Machine Head, il y avait Fear Factory. Il y avait un nouveau mouvement qui arrivait. Fait que nos oreilles étaient diversifiées. Ouais. On avait le choix. Fait que on n'a pas suivi Testament. Ou Testament n'ont pas suivi le tournant des années 90 et ont été un peu perdus dans le brouhaha du renouveau début 90.
Ouais. Okay. En passant, je ne sais pas si c'est à cause qu'on a parlé de l'album Risk tantôt un peu trop fort. On n'a pas eu de refill de café, je pense que.
Il y a peut-être une corrélation là-dessus. Il y a peut-être une corrélation.
Peut-être. Non, mais ça fait. Ouais. OK. D'accord. On y va avec Let Go of My World, Testament. Listen now. autres, je sais qu'on avait voulu souligner le Force of Habit d'Exodus. Vu qu'on a seulement une émission d'une heure, ben, on a pensé parler plutôt vous parler de cet album de Savatage qui s'intitule Fight for the Rock de 86. Pour moi, c'est un album gris. Un album aussi gris que son contenu, que de la couleur de la pochette. Dans notre souvenir, c'est un band sur le cover. Ce qu'on voit, c'est un band triomphant qui vont à la conquête d'une montagne avec le drapeau américain dans toute sa splendeur. Mais quand je le regarde aujourd'hui, je vois quatre bombes qui ont l'air de faire un mauvais coup sur un paquet de grosses roches dans une cour à scrap. un exemple d'album qui semble avoir été formaté pour les radios AOR, du Arena Rock tout simplement. Sans tomber dans le glam, mais Arena Rock tout simplement. T'sais, c'est comme un peu comme si on avait voulu métalliser, je sais pas, Foreigner ou je sais pas trop quoi, mais sans tomber trop dans le piège mélodique ou facile, mais genre d'album que les compagnies major à l'époque encourageaient les bandes qu'ils signaient de faire. Sûrement une des plus grandes déceptions d'été 86 pour ma part, des ballades inutiles figurent, Out of the Streets, la reprise de Badfinger de 1971, Day After Day, complètement inutile et déprimant, je dois dire, ironiquement. Alors on peut résumer que Fight for the Rock, Red Ride Paradise et Hyde, par exemple, pourraient être des leftovers justement de Power of the Night avec lesquels c'était déjà adouci. Après, évidemment, Sirens, puis l'excellent EP, on doit dire, Dungeons Are Crawling. Avec du recul, la meilleure moitié de l'album sonne mieux à l'oreille aujourd'hui, avec du recul, que l'autre. Mais l'autre moitié est aussi pire qu'à l'époque, à mon sens. The Edge of Midnight, encore aujourd'hui, celle qui vient le plus chercher 30 ans plus tard, dans la même veine que Power of the Night, qu'est-ce que j'ai choisi. Je dois dire que par après, heureusement, se sont vraiment bien repris avec All of the Mountain King. Tu vois que l'intégration du symphonique qu'on allait connaître plus tard avec les albums subséquents, vraiment, tu voyais l'ambition qui commençait à jaillir à ce moment-là. C'était déjà bon signe pour qu'est-ce qui s'en venait. Puis justement, la collaboration, comme tu mentionnais tantôt, hors ronde, Mike, avec Paul O'Neill.
Oui, c'est ça. Moi, je connais plus le Savatage de Paul O'Neill à mon temps, donc Hall of the Mountain King et l'excellent Gutter Ballet et autres, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, Trans-Siberian Orchestra avec l'Orchestre symphonique au complet, mm-hmm. qui est un projet grandiose, ouais. soit dit en passant.
Oui, c'est sûr que du côté de la part de quelque chose de frais dans le métal, vraiment, ils ont vraiment beaucoup contribué. Quoi que moi, personnellement, je préfère quand même les tout débuts de Savatage. L'espèce de côté version presque trash des premiers albums de Van Halen, parce que Chris Oliva, c'en était tout un guitariste avec une signature, en passant, pour s'entendre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce gars-là. Et c'est avec regret qu'il nous a quittés en 93, mais définitivement, ils ont vraiment amené quelque chose d'intéressant puis de nouveau dans le métal. Ça, je respecte ça beaucoup, même si je trouve qu'il y a beaucoup de ces albums-là qui sont peut-être un petit peu inégaux à mon sens, mais très appréciables. Puis à redécouvrir, je pense. OK, ben c'est ça. On va aller avec une pièce que j'ai choisie de cet album, The Edge of Midnight. un des groupes qui a semé vraiment la confusion générale, ou presque, ou pas loin, dans les années 90. C'est les Britanniques de Paradise Lost. Parce qu'eux aussi, ils ont commencé avec belle musique de circonstance pour nous, merci. Ouais, Paradise Lost, tout un virage à la mi-90. D'abord, c'était avec l'album One Second, l'espèce d'album gothique, là.
Gothic rock, là. Ben, du gothic rock, c'est ça pour les deux premiers albums. Ouais. Les deux seconds sur Music for Nation, c'est-à-dire l'album Shades of God et Icon, sont vraiment trash léger, mais ils sont quand même très métalliques. Ouais. Avec aussi le troisième ensuite, ou le cinquième plutôt, Draconian Times. Mais c'est avec One Second en 97 que le tournant s'est fait vers le dark rock synthétique, j'appelle. Là. Mm-hmm. Mais Host et All the Way, le Host, ils étaient signés sur EMI dans ce temps-là. Fait que ça, c'est un autre major. Fait qu'une autre influence externe pour d'avoir de quoi de plus accessible, disons. Mais ils avaient vraiment perdu leur racine complètement, cet album-là. Il n'y a aucun lien avec le nom Paradise Lost et la musique qu'il y avait sur le disque à ce temps-là.
Ce fiasco, en fait, Catherine of Doom, Saint-Amand, qui était une de nos chroniqueuses pour le fanzine Extrême Radiophobia à l'époque, on y avait légué le loisir de faire la critique de cet album-là. Il avait donné une cote de 21 sur 100, qui était une des plus basses de l'époque, avec Risk, qui avait eu 14. 14 sur 100.
Oui. On va en parler d'ailleurs de Risk.
Oui, c'est sûr.
Ce que j'ai pris en note en réécoutant l'album, parce que oui, j'ai tenté de faire de l'exercice, j'ai résisté seulement pendant 16 minutes en passant. Fait que moi, j'ai arrêté de comprendre ce qu'il faisait à partir de One Second, évidemment. Possiblement l'écart, le plus grand écart pour un band ayant gardé le même nom. Passant du doom death metal à la musique pop électro dans la même décennie. Il faut dire que le groupe allemand que j'aime bien, en passant, Atrocity, ont eu un virage abrupt avec Gemini en 2000, avec un électro-metal un peu à la Rammstein, mais beaucoup plus metal que Paradise Lost, parce que là, pour le c'est quasiment un album rose. La pochette est-tu rose en passant?
Elle est bleue fuchsia.
Avec des gars avec des cheveux courts, ça la pochette.
Ouais, ils ont une coupe de cheveux. Mais la coupe de cheveux, c'était pas maintenant One Second, mais donc elle fitait mieux sur Host.
Ouais.
Mais oubliez pas, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le Major Label est en l'air de ça. Là. C'est EMI, là. C'est un des cinq plus gros joueurs dans le monde. Il y avait de la pression pour sortir de quoi d'accessible.
Alors, ce qui explique souvent ces fameux écarts de conduite artistiques, c'est souvent l'influence du gros label, et ça va même jusqu'à la coupe de cheveux, j'en reviens pas.
Incroyable, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu veux? Ça arrive. Mais ils sont revenus. Paradise Lost sont revenus aujourd'hui. Ouais. Ils sont revenus en 2006-2007. Ouais. Beaucoup plus métallique, beaucoup plus doom. Donc, il y a une rédemption. Ça a pris du temps. Ça a pris un bon 8 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, Paradise Lost sont revenus dans le doom death, et puis comme qu'on l'a connu début 90.
Ouais. Alors, à éviter pour les emplettes de Noël, Paradise Lost Host, c'est non. Alors, un autre album des années 90, au virage abrupt, celui de Morgoth, Feel Sorry for the Fanatics, paru en septembre 96. Pour les fans du band de Morgoth, c'était l'album jaune, avant même celui de Megadeth, évidemment, avec un titre qu'on n'a jamais su si c'était sarcastique ou non. Quand on parle de virage à 90 degrés, ben ça, c'en était tout un. Qu'avec Odium, on avait commencé à se débarquer du standard, du death. Certains appelaient ça même du post-death. Un peu comme Loud Blast, le groupe français, on fait un peu plus tard. Il fallait quand même avoir assez l'esprit ouvert pour apprécier ce matériel complètement inattendu, mais tout de même inspiré. On sentait pas que c'était pour plaire au marché américain, par exemple. Donc c'était une pression, comme tu disais tantôt, du label. Tu sais.
Pour Morgoth, c'est vraiment... Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir d'influence externe. C'est vraiment le band qui ont créé ça. Parce qu'en 96, tu sais, Morgoth, c'est un groupe aussi allemand, donc un groupe européen. Donc, est-ce qu'ils avaient un désir de percer le marché américain? Sûrement. Mais en 96, ils étaient déjà trop tard. Puis c'est pas avec Feel Sorry for the Fanatics qu'ils l'ont fait. Puis c'était pas avec Odium qui aurait pu réussir 2 ans plus tôt à le faire. Donc, finalement, c'est un album qu'ils ont fait pour eux eux-mêmes, sans avoir de cible directe, et puis la cible, qu'elle soit atteinte ou qu'il l'ait manqué, c'est un album qui a passé dans le beurre anyway. Mm-hmm, mm-hmm. Malheureusement ou heureusement, parce qu'il n'est pas très bon, ce disque-là.
Ben, pas un grand disque, mais quand même, je dirais qu'il y avait une inspiration, mais moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un album qui se digérait quand même lentement. C'est pas un album qui va t'attraper au premier vol. C'est un peu comme les Angel Rat ou les... certains albums de Prong qui ont fait aussi, qui ne sont pas nécessairement faciles à première écoute. moi, avec du recul, j'en revenais pas comment ça sonnait comme vraiment Killing Joke. Moi, à l'époque, je connaissais pas bien Killing Joke. J'ai pas pu faire le rapprochement immédiatement, mais par la suite, j'en revenais même pas. Après avoir écouté plus de Killing Joke, mais c'est, ben, voyons donc, ça sonnait vraiment Killing Joke, cette affaire-là, c'était incroyable. J'aurais aimé qu'ils fassent la même chose en gardant le mordant et la pesanteur qu'on avait sur Odium, qui était pas un mauvais album, Odium en passant.
Moi, j'adore Odium parce que justement, il y a l'expérience, mais il y a quand même un edge là-dessus.
Ouais.
Faut pas oublier que Odium, c'est leur deuxième vrai album.
Ouais.
Les deux premiers, c'est deux EP. Donc, Cursed, c'est leur premier en 91, Odium 93.
Ouais.
Fait que déjà, il y avait un tournant. C'était pas du death metal traditionnel. On était déjà loin de là. Morgoth ont compris ça très rapidement.
Ouais.
Fait que le tournant avec Feel Sorry for the Fanatic est moins abrupt que les autres disques qu'on a déjà critiqués puis les autres disques qu'on va critiquer. Ben, demeure que c'est pas un album death metal, là, clairement. Là. C'est un album métallique, là, mais pas death metal. Donc,
ouais.
Oui, c'est un tournant pour le groupe, mais on était déjà un peu
ouais.
habitué à voir cette tangente-là qui était non linéaire. Là,
ouais, ouais.
Certainement.
Ouais, c'est ça. C'est un mauvais timing pour eux autres en même temps. Je suis sûr qu'ils auraient sorti l'album 10 ans après. Ça aurait pu être un album qui aurait été bien accepté. On sait pas. C'est souvent une question de timing. C'est un album que je vais réécouter avant le dernier qu'ils ont fait. Là. Moi, ce que je trouve le facultatif On God de 2015. La dernière tune d'album qui s'appelle A New Start. Je ne sais pas si c'était significatif. Puis Last Laugh aussi. Dernière, ce qui veut dire dernière chose et puis rien après. Est-ce qu'on a bien ri de vous autres? C'est ça que ça voulait dire? On ne sait pas.
Très adéquat comme titre. Très adéquat.
Moi, j'ai choisi une pièce de l'album. Pièce Forgotten Days qui est une des trois meilleures pour moi sur l'album.
Allons-y. We'll be right back.
subversion sur Underground Québec Radio.
This is the ballad of the mission from Kid Rock!
Bon, un autre album jaune, celui-là de Megadeth, le fameux Risk de 99, qui est un des albums sûrement les plus controversés, les plus débattus de sa génération. En tout cas, pour rivaliser un peu avec les X-Factor et les Saint Anger de ce monde. C'est un album qui va continuer de faire jaser, n'est-ce pas?
Oui, et c'est surtout dû que Megadeth, c'est un des Big Four, fait qu'ils sont toujours en dessous de la loupe, peu importe qu'est-ce qu'ils vont produire, même avec... ils avaient été en dessous de la loupe, même lorsque Countdown to Extinction était sorti, qui est un album classique aujourd'hui, et qui l'était dans le temps aussi. Donc, le tournant a commencé avec là, puis ensuite, Euthanasia, puis après ça, Cryptic Writings. Fait que là, on est rendu avec Risk en 99, qui est plus du hard rock que du thrash metal, là, on va le dire tel quel, mais du hard rock, pas glam, vraiment du power core, là, c'est... Fait que c'est du heavy rock, tout comme ils ont fait récemment avec Super Collider. Donc, on n'est pas déshabitué de la part de Megadeth de faire des albums heavy, pas heavy, heavy, pas heavy, 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 pas heavy. Fait que ça vient de l'esprit de Dave Mustaine, même qui a fait un album solo, le MD45, en 97, donc 2 ans avant Risk. Donc, on était encore préparé. On savait qu'il y a quelque chose qui cuisait là, du côté du clan Mustaine.
Moi, dans le temps de Zine Extrême Radiophobia, j'attendais un album vraiment mauvais pour pouvoir le bâcher comme faux, parce qu'à l'époque, au début, on critiquait juste des albums qu'on aimait, fait qu'on n'avait pas d'album en bas de 80-85%, tu sais. Et là, enfin, il est arrivé ce Risk, comme le Host of Paradise Lost, mais celui-là, j'avais donné une note de 14 sur 100. C'était encore plus bas, justement, que Paradise avec 21, mais la plupart des points, je dois le rappeler, avaient été... attribué au stand-out de l'album pour moi, qui était Prince of Darkness, puis le seul solo que Marty Friedman, littéralement ligoté en studio, se démarque avec sa propre signature 30 secondes avant la fin de la dernière tune, ce que je trouvais complètement absurde. Même Louise Girard, dans le sang frais, avait qualifié le contenu comme étant de la musique de danseuse. Ça m'a pris 5 ans à pardonner à Dave d'avoir sorti ça. Je me suis réconcilié avec Megadeth en 2004 avec une critique élogieuse que j'avais faite de System as Fail dans une autre publication. Je pouvais pas croire que ça portait le nom de Megadeth, surtout quand j'ai entendu ce beat disco dans un magasin disque à Rouen et qu'on m'a dit que c'était Megadeth. Oui, la fameuse Stone Crushing, mais ça, c'est sans mentionner les horreurs comme The Doctor is Calling et Breadline. C'est quoi ça, la ligne de pain? Ça sonnait comme une publicité d'All-Brand de Ford Bronco, ou fouille moins, pathétique. Je pense que Dave avait perdu un peu le contrôle de sa production aussi. C'est ce que j'avais lu dans sa biographie aussi. Il a un peu regretté aussi, un peu à l'instar de Tom Warrior, mais peut-être pas autant, mais parce que Dave veut pas, il y avait une ligne qui commençait vers le plus commercial, puis c'était comme prendre une bretelle à 35 degrés pour prendre une autre bretelle à 50, puis se ramasser un peu plus dans le champ avec Risk. Risk portait bien son nom, puis la pochette était très ordinaire pour un album très ordinaire en ce qui me concerne.
On va maintenant parler d'un autre band qui est allé dans l'électronique. C'est Behrit, groupe black metal qui a commencé avec leur premier album qui est un ramassé de 2 démos, The Oath of Black Blood, suivi de l'excellent album Drowning Down the Moon. Alors, album numéro 3, Behrit, qui s'appelle H418OV21C. Je me rappelle pas de quelle est l'explication pour cette terminologie-là. Bref, c'est un album industriel et électronique de A à Z. Tout comme l'album subséquent qui s'appelle Dark Doom Synthesis. Fait que je comprends pas comment un band black metal cru et raw qui enregistre avec un tape à cassette dans le fond d'une cacane peut se rendre à faire un album industriel. Ça m'échappe. Tout comme Danzig tout à l'heure, c'est des gars qui sont rock'n'roll, qui sont vraiment classiques et analogiques, puis qui virent complètement digital comme ça. J'ai bien la misère à comprendre. Fait que c'est arrivé, c'est disponible, tout est archivé. Puis ça existe, mais regardez. Behrit sont revenus plus tard, mais il était trop tard. Fait que c'est juste une petite parenthèse. C'est pas juste les légendes qui font des erreurs. Il y a des bands black metal underground qui en font aussi des erreurs. Je vais faire Drawing Down the Moon, qui est très dark. C'est un album black, là. C'est du BM total, là. Fait que n'importe quoi de cet album-là va passer haut la main. C'est culte et légendaire. Mais l'album subséquent, le H418OV21C, là, c'est une horreur à oublier.
Okay. Donc, pas digne d'être diffusé, même à Subversion.
Non, mais vous pouvez faire des recherches sur les internets et vous allez pouvoir vous divertir grandement.
Vous pourrez vous consterner vous-même.
Oh, définitivement. album numéro 5 de Danzig, l'album Black Acid Devil, tout collé en un mot. Danzig, bon, on le connaît bien pour ses heures de gloire avec Misfits et ensuite avec le mouvement Dark Punk avec Samhain. Bon, Danzig 1, album blues, blues rock. Danzig 2, encore plus blues rock. Danzig 3, metallic trash. Danzig 4, un peu plus aventureux, mais ça aussi excellent. Danzig 5, qui est allé vraiment au-delà de nos expectations. Un album industriel, rien de plus, rien de moins. Fait que les artistes ont le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent, puis Danzig en sait quelque chose. Il est très possessif de sa musique, il est très contrôlant. D'ailleurs, il a tout renvoyé son band après Danzig 4. Donc, sur Danzig 5, il n'y a pas de John Christ, il n'y a pas de Eerie Vaughan, il n'y a pas de Chuck Biscuit, il y a Glenn et autres musiciens engagés. Engagés peut-être parce qu'il n'y a absolument aucune musique crédible là-dedans, guitare, bass ou drum. C'est purement du digital de A à Z. Fait que c'est très dommage pour le fan de Danzig qui l'a supporté depuis si longtemps de se retrouver avec un album ou un enregistrement si limpide de vie. Cover new design in you. I want to look in your other face, but it's so damn hard to find.
Pendant consternation, est-ce que c'en est une aussi pour cet album de Wasp qui s'intitule Kill Fuck Die?
Moi, je suis un fan de Wasp, de A à Z, et j'aime bien aussi Kill Fuck Die. Et Kill Fuck Die, tout comme Danzig de tout à l'heure, est un album industriel. Kill Fuck Die est sorti en 1997. Ils n'étaient plus sur un major dans ce temps-là. Bon, Wasp sont connus pour le hard rock, shock rock. Donc, Blackie était rendu solo. Donc, il a fait d'autres albums sous le nom de Wasp, tout étant des albums de Blackie, mais dissimulés comme des albums de Wasp, encore un truc des étiquettes de disques. Mais en 97, il y a une réunion. Ouais, alors Blackie se rejoint avec Chris, ou Chris se rejoint avec Blackie. Qu'est-ce qu'on s'attend? Au meilleur. Non, on a un album industriel. Fait que là, c'est sûr que c'est un peu décevant pour les fans de longue haleine. Fait que Kill Fuck Die est un album hard rock, mais industrialisé. Les guitares sont digitalisées, c'est très, très mécanique. Fait que c'est très difficile à accepter pour l'attente qu'on a eue pour finalement avoir un album classique à la hauteur de Headless Children.
Alors, c'est pour éviter les méandres administratifs, comme nous dit mon ami Mike, il faut épurer la liste et oui, sabrer dans les choix des 44 albums de membres qu'on a fait. Alors, on ne parlera pas de Judas Priest, Turbo ou autre illustre album condamné, si on veut. Il y en a un que Mike voulait souligner, c'est le dernier album de Morbid Angel.
Oui, Morbid Angel, qui ont toujours fait dans la dentelle du death technique ou du brutal death. Par contre, avec la lettre I pour imbécile, on est rendu à Illum Divinum Insanus. Bon, c'est sûr qu'encore, c'était un projet fantastique sur papier parce que c'était le retour du grand David Vincent, qui avait fait une pause pendant à peu près 10 ans, de 1995 à 2005. Donc, l'album I, on va l'appeler, n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Il y a beaucoup d'expérimentation. Et puis, quand je parle d'expérimentation, il y en avait sur Blessed Artistic aussi, mais ça fitait. C'était l'expérimentation classique où il y avait des interludes classiques. Mais là, sur l'album E, c'est vraiment du beat électro. Là. On est dans une autre dimension. Là. Fait que quand tu viens prendre un retour d'un frontman légendaire dans un band death metal légendaire, Fait qu'en tant que fan, on s'attend à un certain produit d'un certain standard, d'une certaine qualité.
Oui.
Puis quand le produit ne marche pas avec cette attente-là, c'est sûr qu'on t'attend avec une brique puis un fanal, ou des briques et des fanaux. Ça se dit du fanaux? Fait que l'album I est juste pas à cette hauteur-là. La production est bonne. Il y a quelques pièces qui sont métalliques de A à Z qui bûchent, là, puis c'est vraiment du dead grind. Mais il y en a d'autres qui sont. Il n'y a aucun focus. Là. C'est comme. Il y a un riff qui part, qui revient jamais. David qui chante pendant la pièce. Là, je parle de la pièce Radical, là, qui est l'avant-dernière pièce, qui est sûrement une des pires chansons du death metal jamais écrites. C'est vraiment de l'humour, là, cette pièce-là. Là.
Mm-hmm.
Tellement qu'elle est mauvaise et qu'il n'y a aucun focus au niveau de qu'est-ce qu'une pièce de rock devrait être. Justement, la deuxième pièce s'appelle Too Extreme. C'est une horreur, cette pièce-là. C'est inécoutable. Purement inécoutable. Il y a bien des albums mauvais ici là, dans nos listes, là,
ouais.
Mais lui, là, il remporte peut-être pas la palme, mais dans le death metal, c'est le seul qui se retrouve dans cette liste-là.
Ouais,
parce que le dernier de Morbid, qui était encore avec Steve Tucker, c'était la lettre H, Heretic, album death metal all the way. C'est du death floridien, ça torche pis tout.
Ouais.
Et là, 3 ans plus tard, avec l'album I, là, c'est une horreur. Là. Une abomination. Une abomination pour désolation.
Très bien dit.
What's the reason? What's the reason? The walls are high, we know they gotta come down. Cause we've been crossing the line since 1989. We're moving the world because our power is a shattered sick crew. We're fucking magic to prove that the radicals are here to stay. Hey, hey. We're living hardcore radical. We'll always be maniacal and animal. Are physical, irrational. All right, a killer, gonna strike fast.
Alors, à l'approche de Noël 2015, et à titre de référence pour les erreurs à ne pas commettre, voire les achats à ne pas faire pour pour les êtres chers qui vous entourent, on va vous citer la liste, en fait, une partie de la liste des 44 albums de marde qu'on avait retenus. Alors, ben là, j'avais écrit Voivode Angel Rat, mais celui-là, je le conseille parce que c'est un album qui vieillit toujours de mieux en mieux, à mon sens. Moi qui m'a pris une douzaine d'années à comprendre, mais bon, lui, on va l'enlever de la liste dans le fond parce que je le conseille fortement. Mais ceux qu'on conseille moins et qu'on n'a pas jasé, il y avait Cataclysm, Victim of This Fallen World, Iron Maiden de X Factor, Judas Priest Turbo, pas sûr que Mike est d'accord avec ça.
Non, moi j'aime beaucoup Turbo, mais moi je mettrais plutôt l'album Demolition, qui est beaucoup moins bon. Il est peut-être pas pop, mais il est supposé être un album retour après Juggernator, mais Demolition est moins bon que Turbo, selon moi.
Possess Beyond the Gates, tournage bizarre, Exodus, Force of Habit, Carcass Swansong, Samael, Eternal, Slayer, Saint-Zune and the Abyss, que j'ai jamais aimé, Metallica, l'album noir, Anthrax, Storm 442.
C'est sûr qu'on connaît déjà les aventures avec Load et Reload de Metallica, début 90. J'aimerais aussi souligner l'album légendaire, un des albums les plus dispendieux de l'humanité, Chinese Democracy de Guns N' Roses. Et finalement, un groupe un peu plus underground, Theater Tragedy, qui ont fait dans le Doom Death, qui ont viré Electropop en 2000 avec l'album Music, suivi de l'album Assembly. Alors, deux autres tournants au niveau de leur discographie respective qui pourraient être à oublier. Merci.
Je te remercie, Mike, pour ta grande contribution à cette émission spéciale Noël. Je t'ai posé fête de marde. Mais... le top 44 des albums de marde ou le Justify Your Shitty Taste, justifie ton goût de marde, Weird Game Changer album, etc., etc. Merci, Mike.
Le meilleur du médiocre. Merci, amusez-vous. Là. Bonne année.
Okay, bonne année. Attention à vous autres, bye.
Quelqu'un a dit: vous n'avez pas à devenir misérable pour célébrer le miracle du petit Jésus. Venez chez Home Depot, faites rénover votre esprit par Martha Stewart. Mon beau sapin, roi des forêts. $299. Wow, check ça! J'ai Rocky 4 en Blu-ray. Il me manquait juste ça pour être heureux. Mon cœur est en paix d'avoir aidé un riche à prendre son pina colada sur une plage en Hawaï. Je vais pelleter, puis après ça, je vais pouvoir relaxer en écoutant le miracle de la 34e rue.